connaissez la cérémonie des vœux du maire, qui est une cérémonie qui se passe dans toutes les communes et qui, en ce début d'année, est un petit peu particulière, puisque on sent qu'il y a évidemment beaucoup d'attentes par rapport aux élections municipales. Or, il ne faut pas mélanger les genres. D'ailleurs, la loi est assez claire là-dessus. C'est-à-dire que les propos, je cite, apologétiques, c'est pas moi qui l'invente, ou polémiques, sont évidemment pas de mise aujourd'hui dans cette salle. Et bien entendu, je peux vous faire mes vœux et présenter effectivement un certain nombre de bilans, comme d'habitude, bien entendu. Je ne peux pas non plus vous présenter ma nouvelle liste, c'est quelque chose que nous ferons la semaine prochaine, dans un autre cadre. Donc, de ce côté-là, ne soyez pas impatients, le côté un petit peu politique locale et élection aura tout le temps de se déployer au cours des prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, ce sont les vœux du maire, vos vœux concernant absolument tout le monde. Quand nous sommes arrivés en 2001, notre situation pouvait s'apparenter à celle de naufragés qu'un tourment de l'océan aurait rejeté sur une plage inattendue. C'était un peu comme l'émission de télé-réalité qui laisse le spectateur dans l'attente du prochain épisode, de la prochaine épreuve. Et des choses frappent, il y en a eu. Cela ne nous a pas divisés, mais bien au contraire soudés. Nous avons formé une équipe qui a tenu toutes ses promesses et au-delà. Cette équipe, qui a su maintenir son cap pendant 7 ans, elle mérite mon respect autant que ma reconnaissance. Quelques-uns d'entre nous sont partis vivre loin. Alain nous a quittés sans jamais perdre sa foi, nous laissant une leçon de courage que nous n'oublierons pas. À vous tous, adjoints et conseillers, je tiens à exprimer ici mon admiration et ma profonde affection. Je crois que je vais avoir un problème à terminer mon discours avec quelqu'un d'autre sur la ligne, qui est bien mignon, mais qui parasite un petit peu les interférences. Merci. Si la charge de maire me passionne, je me méfie de l'exercice du pouvoir. De nos jours, on dissocie facilement le pouvoir de la responsabilité, la réussite individuelle de la charge, la notoriété de la valeur. L'ambition est glorifiée. Et on se pose rarement une question simple. Est-ce le poste qui a besoin du candidat ou le candidat qui aurait besoin du poste? Je crois intimement que pour donner un sens à sa vie, il faut donner aux autres, à tous les autres, sans discrimination. Servir et non se servir. C'est dans cet esprit que nous avons accompli le mandat que vous m'avez confié et je peux le démontrer point par point. C'est dans cet esprit que je brigue un nouveau mandat. Je pars avec un seul handicap. Je ne sais pas mentir. Fini les naufragés. Quels que soient les élus qui reprendront les rênes de la commune en mars prochain, ils trouveront des dossiers bien avancés. Des armoires bien remplies. Une machine en route. Des comptes assainis. N'est-ce pas le meilleur gage d'esprit démocratique que d'assurer la continuité, quoi qu'il arrive ? Dans les tuyaux, selon l'expression consacrée, je citerai la maison pour les jeunes, le domicile partagé pour personnes âgées désorientées, la restructuration du foyer de personnes âgées, l'EHPAD, un service de soins à domicile, des programmes de logement, un projet d'aménagement de Portudy pour le parking, une zone artisanale de qualité, un projet de pôle mer sur le port pour les pêcheurs et agriculteurs, un projet agro-environnemental à l'échelle de l'île, une ZPPUP à finaliser, un projet d'aménagement du bourg, l'aménagement devant l'école publique, l'aménagement du sentier côtier entre Locmaria et la Pointe des Chats, et plusieurs actions de développement durable que je développerai d'autres jours. Tout ce que je viens de citer ne constitue pas le programme du prochain mandat. C'est pour l'essentiel des réalisations déjà financées, programmées sur les rails. Si certaines vous rappellent quelque chose, ne soyez pas surpris. J'en ai parlé depuis longtemps et si d'aventure d'autres voulaient les récupérer à leur profit, je trouverais cela plutôt flatteur. Étant candidat à ma propre succession, je ne peux ici vous proposer une profession de foi pour le prochain mandat, comme je vous ai expliqué. Cette profession de foi est élaborée en ce moment avec les candidats qui m'accompagnent Ceci est donc un discours de vœux, pas un discours de campagne. Lors de mes vœux de 2007, j'avais lancé l'agenda 21 dans l'esprit d'un travail extra-municipal et d'une mise à disposition publique des idées qui en sortiraient. Je constate avec plaisir que certains s'en emparent, aux électeurs bien sûr, de discerner les plus crédibles pour les appliquer. Depuis 2002, lorsque je prépare mon discours des vœux, comme la plupart des maires, je fais le bilan. J'énonce les réalisations à venir. Je pourrais reprendre chacun d'eux et démontrer que nous avons respecté tous nos engagements et au-delà. Je vous invite à reprendre les journaux municipaux pour le vérifier. Mais je tente aussi à cette occasion de prendre un peu de hauteur en plaçant notre île dans le vaste contexte de notre époque. Résumer la réflexion politique locale au seul territoire local serait un peu comme barrer un navire dans le brouillard, au milieu des récifs, après avoir soigneusement débranché les radars, les sondeurs et les GPS. Branchons donc un peu nos radars. Je constate, comme vous tous, que nous pénétrons de plus en plus rapidement dans une ère difficile, complexe, pleine de dangers, donc de défis. Je suis persuadé que nous sommes armés pour les affronter, à la condition de rester unis et solidaires. Mais pas unis et solidaires à quelques-uns, à une faction, à un clan, ou même seulement à l'ensemble des Iliens d'ailleurs. Unis et solidaires avec l'ensemble de la planète, l'humanité tout entière et la biosphère qui nous fait vivre. Dans un monde de ressources rares, pour reprendre le titre d'un livre récent d'Éric Orsenna, tout devient plus cher. Le prix de l'énergie, des matières premières, le prix des denrées de première nécessité est fait multiplier par les conséquences du réchauffement climatique, de la mondialisation, des tensions internationales. La Bretagne gagne 20 000 habitants par an et se place au cinquième rang français juste derrière la Côte d'Azur pour ce taux d'augmentation. On prévoit 400 000 personnes de plus en Bretagne, dont 100 000 dans le Morbihan, dans les 25 ans qui viennent. Suite aux travaux de la région et du Conseil économique et social, quatre scénarios extrêmes ont été envisagés. La Braise Riviera, je vous laisse interpréter, le tigre celtique, la surproduction aux dépens du cadre de vie et le reflux migratoire. Notre île est, comme je l'ai toujours dit, entraînée dans ce tourbillon plus large, qu'il soit mondial, national et régional. Alors comment regarder l'avenir de notre caillou sans nous payer de mots, avec lucidité et surtout avec l'œil du présent et non pas l'œil du passé? Comme pour la Bretagne, eh bien plusieurs scénarios sont possibles, scénarios extrêmes, mais qui valent le coup d'y jeter un coup d'œil. Scénario numéro 1, on pourrait appeler ça la résidentialisation, nouveau terme qu'on emploie pour dire tout simplement que c'est l'économie résidentielle qui prend le pas. Alors décrivons cette île. Sous la pression de certains lobbies de l'immobilier, les députés n'ont pas abrogé la loi littorale, mais par quelques aménagements, ils l'ont vidée d'une partie de son contenu. J'espère que ma prévision est fausse. En zone littorale, les espaces naturels et agricoles sont inéluctablement grignotés par des opérations immobilières visant surtout les classes moyennes, hautes, à fort pouvoir d'achat. L'étalement urbain coûte cher en réseau et en transport, donc les impôts augmentent, mais le prix des terrains, lui, ne diminue pas. Les jeunes actifs et retraités à revenus modestes se réfugient où ils peuvent, vers le centre-Bretagne, certainement pas vers l'île. Certaines îles se spécialisent alors dans la villégiature des hauts revenus. Les inégalités sociales croissantes augmentent, l'insécurité des territoires insulaires gardés et contrôlés deviennent donc, dans cette insécurité, les territoires insulaires gardés et contrôlés deviennent des paradis, protégés, réservés aux plus fortunés, ce qui crée quelques emplois locaux de gardiennage, d'entretien, de vigile et toute la gamme de l'économie du corps, apprendre, soigner, libérer. Des espaces naturels soigneusement gérés mais aussi soigneusement limités entourent les jardins de ces Iliens de luxe. L'agriculture considérée comme gênante y a disparu. Un problème demeure, les bouts de stations d'épuration, qu'en fait-on? Mais l'argent est là, alors de gros navires citernes acheminent vers le continent ces bouts indésirables qui seront épandus en centre-Bretagne, là où habitent les jeunes actifs par exemple. Les produits agricoles sont importés du continent à grands frais. Le climat breton se rapproche de celui de l'Andalousie, les tempêtes sont plus redoutables, fréquentes et imprévues. La chaleur augmente, alors on climatise, à tout pas, ce qui pérennise le réchauffement, quel que soit le prix pour le portefeuille ou pour la planète. Quant aux pays du Sud, de moins en moins habitables, leur population de réfugiés climatiques se déverse un peu partout. Les îles se barricadent encore un peu plus face à un monde instable et dangereux. Ce futur n'est pas pour nous. Nous n'y aurons pas notre place. Scénario numéro 2. Je vais encore vous effrayer. La croissance dite non durable. Des Syliens dynamiques ont décidé d'exploiter à fond l'image positive dont Droit s'est doté à travers les médias. Son rayonnement culturel et le fantasme d'une île paradis attirent les entrepreneurs. On construit à tout va des hôtels, une thalassothérapie, des résidences de tombeau, des mobilhomes couvrent le littoral. Les pesticides et les engrais chimiques poussent les sols dans leur dernière possibilité. On vend sous label, mais la qualité ne suit pas toujours. Le réchauffement global et les déluges hivernaux dessèchent, puis lessivent les terres arables dont les rendements finissent par s'effondrer. De vastes fermes aquacoles produisent tout autour de l'île, déversant leur nitrate. Les algues vertes se propagent et bientôt les plages doivent être nettoyées à grands frais pour continuer d'attirer les touristes. Ne riez pas, il y a des endroits où ça se passe. On ne va pas tout de suite dans le mur, mais on se prépare un autre mur pour plus tard, beaucoup plus dur, celui-là. Bientôt apparaît un conflit entre l'urbanisation galopante et les besoins agricoles, car le territoire est limité, la population se divise, c'est à qui épuisera le premier, la ressource essentielle, le sol, car le sol est au centre de tout. Les urbains ont souvent oublié, quelquefois, mais il faut du sol pour construire, mais aussi pour manger, pour respirer grâce aux arbres. Il faut garder les espèces vivantes, pour recueillir l'eau que nous buvons aussi, il faut du sol. Tout simplement pour être heureux et se promener, il faut du sol. Marchandisé comme tout le reste, le sol est devenu un enjeu économique, et plus son prix augmente, plus nous nous appauvrissons de nos besoins essentiels. Dans ce scénario, on s'enrichit aux dépens du futur. Troisième scénario, pas beaucoup plus gai que les autres, la désertification. Après l'envolée des prix du foncier qui a contribué à chasser les actifs du territoire, s'est instaurée une saisonnalité brutale. L'île est déserte de novembre à avril, tout est trop compliqué, le prix du bateau augmente, les études d'enfants s'allongent et coûtent plus cher aux Iliens, les commerces ferment les uns après les autres, l'agriculture et la pêche ne trouvent pas leur rentabilité économique, et même les résidents secondaires hésitent à s'installer pour en faire un caillou qui a perdu sa vie et son identité. L'économie si fragile et interdépendante se détricote, comme on dit. Pour chaque actif qui part, ce sont des classes qui ferment dans les écoles, des commerces qui mettent des clients, des services qui ne se justifient plus et qui disparaissent. La friche gagne, les amoureux de la nature voient les paysages se banaliser, la biodiversité diminue, les chasseurs constatent des déséquilibres importants dans le gibier, les flores et l'ordre protégé sont étouffés par la ronce et le prunelier, le seul sentier côtier, surfréquenté en été, garde encore un peu de charme. Dans ce futur moribond, plane déjà l'ombre de grands charognards, habite d'espaces vierges, et c'est bientôt la ruée des promoteurs et le scénario Brest-Riviera qui pourrait se profiler. Dans ce cas de figure extrême, on ignore nos richesses essentielles, la mer et la terre, et on s'approprie en les bravant. Le futur nous échappe encore. On est en droit d'espérer que le futur sera différent de tous ces scénarios que je viens de vous décrire. Mais l'avenir ne se prévoit pas, il se construit. J'évoquerai donc un quatrième scénario, celui de l'équilibre. Le contexte climatique et géopolitique mondial n'est évidemment pas meilleur. Les denrées agricoles deviennent rares, chères, et surtout le prix prohibitif du pétrole freine leurs exportations. Les marchés de proximité, les circuits courts renaissent. L'eau devient aussi une denrée rare, tout autant que l'énergie. Le tourisme lointain devient de moins en moins abordable. Les vacanciers choisissent la proximité et recherchent l'authenticité. Les Brésiliens ont su anticiper toutes ces tendances. Les surfaces agricoles préservées engendrent sécurité alimentaire, emploi et entretien des espaces. Un urbanisme maîtrisé permet le maintien et même l'augmentation de la population active. Il permet aussi aux résidents secondaires de venir en vacances et en week-end, de donner un peu d'oxygène à l'économie locale. Mais l'étalement urbain est maîtrisé. Le bourg est renforcé dans sa centralité. Les espaces naturels qui sont la plus grande richesse des Iliens gagnent en beauté et en biodiversité grâce à un entretien subtil et attentif. Les sols sont respectés, donc l'eau reste pure. La pêche artisanale et l'aquaculture s'allient de façon à promouvoir un label de qualité reconnu partout. et de petites industries de transformation se créent et exportent des produits courants que les touristes ont pu découvrir au cours de leur séjour sur l'île. La vie culturelle et associative apporte l'enrichissement intérieur à la convivialité, elle contribue à attirer de nouveaux résidents permanents, certains d'entre eux travaillent à domicile par Internet, c'est le télétravail qui se développe et permet de choisir son lieu de vie et ça, c'est l'avenir sûrement. Le tourisme reste un poumon économique essentiel grâce au choix opéré par les Brésiliens d'une image d'authenticité, de nature et de qualité. On ne cible pas le portefeuille, le mieux garni, mais plutôt une clientèle de cœur, respectueuse et attentive aux valeurs du développement durable. Le département, dans ce cas de figure légale, exerce un contrôle efficace sur les tarifs des bateaux. La compagnie délégataire s'engage aux côtés des Iliens dans leur projet de développement et pratique des tarifs attractifs hors saison et accompagne la vie associative et locale. Je préfère ce dernier scénario, mais où en sommes-nous? Quel choix nous reste-t-il? Ce monde que je viens de décrire est presque parfait, mais que constate-t-on entre 2000 et 2007? Eh bien, un solde positif de 22 créations d'entreprises sur l'île. Une stabilisation du nombre d'habitants, ce qui est historique depuis l'après-guerre. Une augmentation de 4% de la population active. L'ouverture d'une quatrième classe à l'école publique. Une augmentation très sensible de la fréquentation touristique hors saison. Ne parlons pas de dernier été pourri. L'agriculture, qui semblait condamnée, repart avec quelques difficultés, mais trouve progressivement sa place. Les paysages sont entretenus, 35 km de chemin ont été ouverts aux piétons et aux vélos, les vallons et les forts sont entretenus, en conclure, sinon que l'action publique, elle peut avoir un sens et une réelle efficacité. Il reste encore beaucoup de travail pour conforter tout cela. Le pôle mer à Portudi, consiste tout simplement à donner un espace aux pêcheurs et aquaculteurs pour travailler et pour produire. Des mesures agro-environnementales cofinancées par l'État. Des offres de formation en direction des Groisillons et Groisillonnes, comme celle qui est actuellement en cours dans le cadre de l'ERF. Et surtout le maintien du type de construction de logements locatifs permettant l'accession à la propriété avec toutes les nouvelles offres, toutes nouvelles de type passe foncier, qui permettent à des jeunes familles à petits revenus de se sédentariser sur l'île et nous y travaillons concrètement avec beaucoup d'espoir en ce moment même. Les secteurs économiques doivent continuer à se mutualiser pour diminuer leurs coûts d'exploitation et de transport. Le rôle d'une municipalité est de les accompagner. Il manque aussi à Groix de petites unités de transformation et de conditionnement permettant d'élargir le bassin de chalandise vers le continent. Je vois dans le geste de la société Océane de diminuer de 20% les exportations des produits locaux une incitation. Et que les restaurants également peuvent participer à cette promotion. Prenons un exemple sur le Slow Food, un mouvement international fondé en 1989 en Italie, dont les objectifs affichés sont la protection du patrimoine culinaire, local et mondial, l'opposition à la standardisation du goût et de la société fast-food, bien entendu, et le développement d'un modèle d'agriculture favorisant et préservant la biodiversité. Ce mouvement, je vous invite à vous intéresser à lui parce qu'il correspond, à mon avis, totalement à ce que l'on veut faire. Voilà des défis que nous pourrons nous permettre de relever. Ils sont ceux d'une société nouvelle qui se dessine un peu partout dans le monde, sous nos yeux, avec nos yeux du présent et non du passé. Je voudrais vous parler un peu des notions essentielles et qui me tiennent à cœur, qui sont des notions délicates, d'identité, d'humanisme et de démocratie. Comme la langue d'Ésope, l'identité peut s'avérer la meilleure ou la pire des choses. Le meilleur est ce lien d'amour qui se crée entre un territoire et ses habitants, et bien au-delà avec ceux dont l'île est une terre d'enfance, nichée au creux de leur cœur et de leur rêve. Le pire est qu'à trop produire d'identité, on risque de rejeter ceux qui ne sont pas d'ici. Et dites-moi, ceux qui ne sont pas d'ici. Les plus grands démagogues de l'histoire se sont appuyés sur ces divisions entre les hommes et tout est bon pour ces manipulateurs. La couleur de la peau, la foi religieuse, la nationalité, l'appartenance à une ethnie dominante. J'ai vécu 2 ans au Rwanda, je sais ce que c'est. Le fait d'être ou non natif. Ce vieux mécanisme basé sur la haine n'est pas encore grippé, il marche même encore fort bien. Et c'est l'exact contraire de l'humanisme. Le rempart contre la face obscure de l'identité, c'est la démocratie et l'état de droit. Tous les hommes naissent libre, légaux, en droit. Donc les lois s'appliquent à chacun de manière égale. Ça paraît simple énoncé comme cela, mais c'est un travail de tous les jours pour les élus. Beaucoup trop de gens pensent être inciviques, ou ne pensent qu'à être inciviques. C'est exprimer pour eux une revendication légitime de liberté. On refuse de trier ses déchets, de déclarer ses travaux, de payer ses impôts parfois. On revendique même des passe-droits. Tout cela au nom d'une liberté dont on oublie qu'elle doit s'arrêter où commence celle des autres. Vivre en paix ensemble, c'est obéir aux mêmes lois. C'est un même contrat social. C'est l'âme du principe républicain. De nouvelles formes de démocratie doivent certes apparaître qui permettent à un meilleur état d'esprit d'éclore. Et cette évolution, cette révolution civique tranquille, doit se faire par la base, dans les communes. Il faut permettre à chaque citoyen de s'impliquer dans les processus de décision, non pour défendre son précaré, mais pour trouver les meilleures façons de vivre ensemble, de partager le regard, d'unir les forces au lieu de les opposer. Bien sûr, il y aura toujours des intérêts contradictoires et des débats houleux, et c'est pour ça qu'il faut des élus responsables pour trancher ce qui doit l'être et avancer ensuite. Sans cela, rien n'avancerait, ou bien la loi du plus fort, et elle reprendrait vite ses droits. Comme disait Churchill, la démocratie est le pire des systèmes, à l'exception de tous les autres. L'agenda 21 a fait quelques propositions intéressantes dans ce sens, car l'implication citoyenne est la condition sine qua non du développement durable. Et je sais que les Groisillons y sont prêts. Le succès des réunions de village, les échanges après les conseils municipaux, toujours riches et avec beaucoup de fidèles, et les groupes de travail sur l'agenda 21 en sont la preuve manifeste. Plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais poser un regard, celui par exemple de la politique jeunesse. Je suis père de 5 enfants que malheureusement, depuis 7 ans, je culpabilise de négliger un peu trop par rapport à mes autres obligations. La politique jeunesse me paraît une question délicate mais essentielle. Les tickets sport ayant montré leurs limites, nous avons signé une convention avec l'UFCB. C'est un succès, principalement pour les plus jeunes. Pour les plus âgés, les ados, les demandes sont beaucoup moins faciles à cerner. Ils sont moins mobilisables, sont aussi plus en danger, écorchés vifs, comme nous l'étions à leur âge. Rien d'étonnant. Seuls un ou des professionnels peuvent réellement faire prendre cette mayonnaise délicate de l'animation jeunesse, qui n'a rien à voir avec la fonction d'éducateur dont elle pourrait être complémentaire. Un permis de construire d'un local dédié aux jeunes est à l'instruction en ce moment. Il sera intéressant ce local, mais seules les compétences humaines auront une véritable efficacité dans la construction de nos enfants. Il faut aussi aider les parents, car leur rôle devient de plus en plus difficile, j'en ai souvent parlé. Ce rôle des parents est pourtant central, car leur parole, celle des parents, ne peut pas être remplacée. Je voudrais rendre hommage une fois de plus à tous ceux qui s'investissent dans les associations. Les associations sportives, qui passionnent nos jeunes, comme les moins jeunes. Les associations à but social, et il y en a beaucoup sur moi. Les associations culturelles, qui contribuent à enrichir notre regard sur le patrimoine, à ouvrir nos esprits sur toutes les formes d'art, la musique, la danse, le cinéma, la peinture, la broderie, et j'en oublie. Toutes continuent à donner une épaisseur culturelle à nos vies insulaires, et ce sont des lieux d'échange, de convivialité irremplaçables. Alors c'est difficile, parce qu'on pourrait citer toutes les associations, et je peux vous dire que le budget subvention est un des gros budgets du budget communal, mais je voudrais en citer 3. En espérant ne pas faire jaloux, c'est pas le but. Cinéphile, qui a un remarquable travail, qui attire de plus en plus de spectateurs. D'ailleurs, ce soir, je crois qu'il y a un film particulièrement intéressant. Le Festival du film insulaire, pour rappeler qu'il fait partie des rares festivals en Bretagne et en France à avoir connu une hausse de fréquentation, de l'ordre de 30%. Et Sainte-Guinetière, dont l'action constante va être étayée par l'engagement de la commune et du département dans la restauration systématique des fontaines et des lavoirs. Conseillé en cela par un architecte du patrimoine qui nous a déjà rendu un travail remarquable. Et avec ça, demandera-t-on, vous ne vous ennuyez pas l'hiver? Il faudrait être singulièrement absent de l'île ou de mauvaise foi pour prétendre que Broye serait devenu triste et son image sans éclat. Il faudrait soigneusement éviter tous les événements, toute la vie associative, partir très loin au moment du festival ou lors des événements festifs et musicaux. Il faudrait éviter aussi de lire les journaux locaux, comme nationaux. Il faudrait aussi éviter de regarder la télévision. Il ne faudrait pas non plus profiter de ces paysages et de ces richesses naturelles. Alors là, peut-être, en faisant tout ça et en persistant à se morfondre avec quelques compagnons dépressifs, on pourrait regarder Groix comme un endroit triste. Ce n'est pas mon cas. Pour l'intercommunalité, j'entends dire parfois qu'il y aurait à craindre que Groix ne décide plus de sa propre politique et que Cap-Lorient ferait la pluie et le beau temps sur notre île. C'est ridicule, puisque ce sont les maires des communes qui constituent l'organe de décision de Cap-Lorient, il faut le répéter à chaque fois. Je me dois de rappeler que tout ce que l'aide financière directe de l'intercommunalité nous apporte pour construire nos projets, un petit rappel, le plan local de l'habitat qui nous permet de maîtriser le problème crucial du foncier, donc du logement, la base nautique de Porlet, qui reste dans le giron de la collectivité, grâce à Cap-Lorient, l'office du tourisme qui permet des actions de promotion beaucoup plus larges, rappelant que là, aujourd'hui, même au 10 janvier, 28 000 guides sont prêts à être distribués partout en France. Le fonds de concours du centre de secours qui nous a bien aidés, le transport collectif, la zone d'activité économique qui est sur le départ, le partenariat avec Natura 2000, les chemins vélo aménagés, le traitement des déchets. Sur ce dernier point, insistons encore, nous avons fait le meilleur choix, nous avons refusé l'incinération. Et je préfère, en tout cas en tant que médecin, savoir que nous avons un système de ramassage qui ne crée pas de pollution dans l'atmosphère, dans les sols. Donc il est dans notre devoir de réduire et de trier nos déchets, je le rappelle, pour léguer à nos enfants un air respirable, un sol cultivable, une eau consommable. Le choix du tri est le seul qui permet de cela. Son succès dépend de la qualité, donc de vous, hein, la qualité du tri. Ne soyons pas la génération qui laissera sa trace dans l'histoire par la quantité phénoménale de déchets qu'elle aura laissés. Il est à la mode de dire qu'une collectivité ou même un État serait comme une entreprise. Ça me gêne un peu, ça procède d'une logique qui voudrait tout réduire à des valeurs marchandes. Notre municipalité, si elle prétend et réussit à bien gérer l'argent public, n'a pas pour but de faire des profits au sens capitalistique. Le profit recherché est ce qui profite aux administrés de la commune. Les investissements, certes, mais aussi les services. Et ces services sont assurés par les agents de la commune. Et je voudrais leur rendre hommage, ici. Ils travaillent pour vous, ils vous accueillent en mairie. Vous ne les voyez pas toujours à l'heure, mais leur tâche est de plus en plus importante à mesure que l'État se désengage. En particulier, quand on parle de l'État, il peut aussi y avoir des services publics habituels qui ont été privatisés, que je ne citerai pas, et qui se désengagent aussi. C'est le même problème, ça revient sur les communes. Donc, il faut que nos agents se forment, et ils le font, qu'ils progressent dans leurs compétences, et ils le font, et leur statut s'améliore, s'adaptant ainsi aux exigences nouvelles. Et la saisonnalité, n'oublions pas, les prix souvent d'une partie de leurs vacances d'été. Il faut être là quand il faut. Merci à eux tous, au nom des élus et au nom de tous les Groisiens. Je crois que j'étais assez long, donc il me reste à vous souhaiter à chacun une année 2008 sereine, mais passionnante. Le vrai bonheur est en soi, dans sa relation aux autres et au monde en général, et je vous souhaite de l'approcher au plus près et d'atteindre la conscience juste des choses.